Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et les grands titres de ce 12 juillet, une nouvelle campagne nationale contre le racisme est lancée, exhortant les Australiens à réfléchir et à agir contre le racisme. Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique tentent d'apporter l'unité dans la région. En France, une motion de censure déposée par l'Alliance de gauche contre le gouvernement d'Elisabeth Borne a été rejetée hier. Une nouvelle campagne nationale contre le racisme a été lancée et appelle les Australiens qui n'ont pas vécu le racisme à réfléchir sur ses causes et ses impacts. La campagne publicitaire multiplateforme vise à faire prendre conscience de la façon dont le racisme fonctionne à la fois au niveau structurel et interpersonnel et espère donner aux gens des outils pour le reconnaître et y faire face. Le commissaire à la discrimination raciale, Shin Tan, a déclaré sur SBS News que la campagne aborde les défis de la réalisation de l'équité raciale en Australie.
The campaign is part of a larger anti-racism strategy that we're implementing. It is about calling Australians to take a stand against racism because racism prevents us from living in a fair, just and equal society.
Tasnim Chopra, consultante interculturelle et formatrice en diversité, a déclaré sur SBS News que de nombreux lieux de travail ont beaucoup à faire pour combler les lacunes.
There's no room for discussion. You can't have a conversation with someone who's got a very dogmatic view and whose entire opinion of you is formed on a stereotype. So yeah, it does get tiring and it informs a lot of the work that I do in terms of breaking down people's misperceptions or misconceptions and misinformation.
La ministre australienne des Affaires étrangères, la sénatrice Penny Wong, et le ministre du Pacifique, Pat Conroy, sont à Fidji pour le Forum des îles du Pacifique pour la première réunion en personne en 2 ans à cause de la pandémie de COVID-19. Mais il y a eu le retrait de Kiribati du Forum, ce qui a choqué plusieurs. On craint que le retrait de Kiribati, compte tenu de sa relation étroite avec Pékin, ne détourne potentiellement l'attention de la discussion sur l'influence de la Chine dans la région. On écoute Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères.
If you look to where the forum was over a year ago now, we are in a much better place than we were, and that's a great tribute to leaders who've been prepared to come to the table when there were really, strong differences, some of which you've referred to. But obviously, where things are with Kiribati, we need to keep the door open and keep working towards reconciliation.
Le Premier ministre Anthony Albanese se rendra à Fidji demain et il va encourager à investir davantage dans les énergies renouvelables dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique afin de répondre aux préoccupations climatiques et économiques. Dans un discours au Sydney Energy Forum ce mardi 12 juillet, il a appelé à davantage d'investissements dans les énergies propres afin d'aider à atteindre les objectifs net zéro.
I'm committed to renewing Australia's standing in our region. This work is underway, demonstrating our government's commitment that each action that we take, each policy that we pursue in this space, will be driven by a larger vision of our shared future, a future with new clean energy industries and jobs as its foundation.
Le gouvernement fédéral a annoncé les détails d'un sommet sur l'emploi qui se tiendra en septembre prochain. Le sommet Jobs and Skills Australia se tiendra début septembre avant le premier budget du gouvernement en octobre. Le gouvernement affirme qu'il rassemblera les entreprises, les syndicats et les parties prenantes et va se concentrer sur le perfectionnement des travailleurs et va offrir plus d'opportunités aux femmes. Le trésorier Jim Chalmers a déclaré à la radio ABC qu'il était possible d'améliorer les paramètres de migration.
I would caution people against thinking that migration is the solution to all of our economic challenges. It's part of the story, but it's not the whole story, and it shouldn't be a substitute for training Australians for roles. It shouldn't be a substitute for childcare reform.
La durée pendant laquelle une personne récupère du COVID-19 est considérée comme immunisée contre le virus doit être réduite. Les réinfections au COVID-19 sont de plus en plus courantes dans tout le pays et à mesure que de nouveaux sous-variants du virus circulent, le Comité australien de protection de la santé a recommandé que la période de réinfection soit réduite de ses 12 semaines actuelles à 28 jours suite à l'augmentation des cas de Omicron. Le médecin-chef du pays, le Dr Paul Kelly, a abordé le sujet ce matin sur ABC Breakfast.
It's yet another curveball that's been given to us by this virus. The new BA4, BA5 variants are more infectious. There is now strong evidence that you can get reinfected earlier than what we had previously seen to be the case.
Une nouvelle campagne numérique a été lancée dans tout le Queensland visant à réduire le risque que les habitants de l'État développent de graves problèmes de santé. La campagne My Health for Life a été développée pour aider ses habitants éligibles à bien vivre et à éviter de développer des maladies graves telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et les accidents vasculaires cérébraux. Bien que le programme soit également disponible en vietnamien, samoan, vietnamien, cantonais, mandarin et arabe, d'autres langues suivront. La porte-parole de Healthier Queensland Alliance, Louise Natouche, a déclaré qu'une approche ciblée était importante car les personnes issues de milieux culturels et linguistiques divers subissent souvent des maladies plus compliquées en raison d'un manque d'accès aux informations et aux services.
So it might be sleep, it might be eating more vegetables, it might be increasing their activity levels, it might be reducing their alcohol intake. It's really personable to them. We all know that if we listen to someone speaking our own language, that really is impactful and resonates and we can relate.
Les agriculteurs des régions de Hawkesbury et de Nepean se voient offrir une aide financière et des conseils à la suite des récentes inondations. Rural Aid indique qu'il fournit une nouvelle série d'aides financières aux familles d'agriculteurs dans les zones de gouvernement local touchées. Les producteurs primaires touchés par les inondations peuvent désormais demander une carte Visa prépayée de $400. La dernière aide fait suite à la distribution $1 million aux agriculteurs dont les fermes ont été inondées plus tôt cette année. Les agriculteurs, leurs familles et leurs employés peuvent également accéder au service de conseil gratuit de Rural Aid qui se rendra dans les régions une fois qu'il sera possible de le faire en toute sécurité. Ailleurs dans le monde, la crise politique au Sri Lanka avec le prochain chef d'État élu le 20 juillet prochain. Un gouvernement d'unité nationale sera mis en place. Écoutez Rashika Jajodi, responsable du mouvement de jeunesse Next Generation Sri Lanka sur les enjeux de la semaine qui vient. Il est sur RFI.
Je crois que regagner la confiance du peuple va être difficile. Beaucoup sont anxieux à l'idée que Gotabaya Rajapaksa ne démissionne pas vraiment mercredi, qu'il fasse même machine arrière et tente de reprendre le pouvoir. Ce que les Sri Lankais veulent aujourd'hui, c'est un gouvernement provisoire avec tous les partis qui élisent un nouveau Premier ministre et un nouveau président issu du Parlement. Le problème, c'est qu'aucun parti au Parlement ne peut dégager une majorité. Il va donc être difficile de trouver le consensus politique. D'autant qu'un grand nombre de députés du parti de Rajapaksa sont maintenant devenus indépendants. Cela veut dire qu'ils ne répondent plus aux ordres du parti SLPP et cela rend l'équation politique encore plus illisible. C'est pour cela que ce mouvement citoyen doit continuer dans l'esprit de non-violence qui l'anime depuis le début pour s'assurer que le nouveau gouvernement réponde aux attentes du peuple.
En Bosnie-Herzégovine, une commémoration hier du massacre de Srebrenica le 11 juillet 1995. À l'époque, les forces serbes avaient tué plus de 8000 hommes musulmans. Crime qualifié de génocide par la justice internationale. Reportage Laurent Rouy pour RFI.
Cette année, 50 victimes nouvellement identifiées ont été enterrées dans le cimetière mémorial de Potocari, situé à quelques dizaines de mètres du lieu où, en 1995, les forces serbes avaient séparé les hommes, presque tous exécutés, des femmes qui avaient presque toutes survécu. La plus jeune des victimes enterrées aujourd'hui avait 16 ans au moment du massacre. Ses restes avaient été découverts en 2001, mais il a fallu 20 ans pour parvenir à une identification. Un certain nombre de corps identifiés n'ont toujours pas été inhumés car ils sont incomplets, tandis que d'autres ossements récemment retrouvés appartenant à des victimes déjà enterrées seront réensevelis après la cérémonie d'aujourd'hui. Cette année, la commémoration se tient dans un contexte tendu puisque des photographies de victimes serbes de la guerre, civiles comme militaires, avaient été plantées le long de la route menant au mémorial, un geste qualifié de provocation à Sarajevo. Dans un pays toujours fracturé selon des lignes ethniques et alors que des élections approchent, les commémorations de Srebrenica sont utilisées une fois de plus à des fins politiques.
Au Mali maintenant, avec 49 militaires ivoiriens interpellés à l'aéroport de Bamako hier, ils sont considérés comme, je cite, des mercenaires par les autorités maliennes. Reportage de Gaël Alex pour RFI.
Pour le gouvernement malien, l'objectif des soldats ivoiriens était de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Le communiqué déroule les faits qui leur sont reprochés. La possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation. La dissimulation de la profession des soldats. Enfin, une certaine confusion dans les motifs avancés par les militaires sur leur présence en territoire malien. Était-ce une rotation dans le cadre de la MINUSMA ? La sécurisation d'une base logistique de l'entreprise Sahelian Aviation Service ou la protection du contingent allemand. Les trois en même temps, selon Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA a laissé entendre hier que ces militaires font partie d'éléments nationaux de soutien. Depuis 2019, les soldats ivoiriens fournissent un appui au contingent allemand de la MINUSMA qui lui-même les affecte à une entreprise privée sous-traitante, la SAS, pour sécuriser certains sites. Les soldats interpellés vont maintenant être remis aux autorités judiciaires compétentes. Bamako demande la coopération d'Abidjan pour faire la lumière sur cette affaire.
Aux États-Unis, avec les tueries de masse récemment et le président Joe Biden qui avait signé en juin dernier une loi bipartisane pour renforcer la législation sur les armes. Hier, il y avait une cérémonie à la Maison-Blanche concernant cette loi considérée la plus importante législation depuis 30 ans. Reportage de David Thompson pour RFI.
Les armes à feu, première cause de mortalité des enfants aux États-Unis, martèle Joe Biden dans les jardins de la Maison-Blanche devant un parterre de familles de victimes. Des victimes assassinées à chaque fois ou presque avec un même fusil d'assaut, modèle AR-15. Une nouvelle fois, Biden appelle le Congrès à les interdire.
Quelle est l'utilité de ces armes en dehors des zones de guerre? Ces armes visent à faire le plus de dégâts possible. C'est pour ça, pardon de le dire, que beaucoup d'entre vous ici avez été obligés de fournir des échantillons d'ADN pour identifier vos enfants.
Mais voilà, la nouvelle législation signée le mois dernier par Joe Biden pour restreindre l'accès aux armes à feu rate ce point essentiel et n'interdit pas le fusil d'assaut préféré des tueurs de masse. Alors en plein discours, incident rarissime. Joe Biden est interrompu par le père d'un lycéen tué à Parkland en Floride en 2018. Manuel Oliver accuse le président de ne pas en faire assez et s'explique ensuite sur CNN.
Cette loi, c'est un feu vert donné au Congrès pour ne rien faire pendant encore 30 ans.
Et pourtant, en 1994, Biden, alors sénateur, était parvenu à interdire la vente des fusils d'assaut, mais cette interdiction ne valait que pour 10 ans. En 2004, elle n'a pas été renouvelée sous la pression de la NRA, le puissant lobby des armes à feu aux États-Unis.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 19 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 12, Hobart 11, Canberra 12, Sydney 17, Brisbane 20, Cairns 26, Darwin 29 et à Alice Springs un maximal de 18 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 12 juillet, une nouvelle campagne nationale contre le racisme est lancée, exhortant les Australiens à réfléchir et à agir contre le racisme. Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique tentent d'apporter l'unité dans la région. Fin du journal, merci de rester avec nous et dans quelques instants, le journal des sports en compagnie de Marianne Murat.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez,
commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.